Mais je vais quand même continuer pour le message. Qui sera en bien continuité. 3 ans. 3 ans, c'est le temps de la dernière restauration de la galerie des glaces du château de Versailles. 3 ans pour consolider les marbres, décrasser les plafonds, retoucher les peintures, renforcer, voire remplacer les miroirs, rénover les boiseries, restaurer le plancher de parquet, etc. 14 ans, c'est le temps qu'a duré la campagne de restauration de la chapelle Sixtine. 14 ans pour débarrasser les fresques de Michel-Ange, le célèbre plafond de la chapelle, de siècles de poussière, de résidus et de suie. 36 ans, c'est le temps qu'a duré, pour le moment, ce n'est pas encore fini, mais j'espère que les progrès sont déjà notables, la restauration de moi, de François Médori. Je suis un chef-d'œuvre aussi en restauration. S'il faut autant de temps, c'est parce que je suis un chef-d'œuvre plus précieux que la galerie des glaces du château de Versailles ou la chapelle Sixtine. S'il faut autant de temps, c'est peut-être parce que j'étais un chef-d'œuvre plus abîmé, ou en tout cas plus fragile, que les fresques de Michel-Ange. Qu'en est-il de vous ? Donc cette dame, si j'ai bien entendu, 28 ans de restauration avant qu'elle n'écrive ce livre. Tu mets la première slide, Pedro. Verset bien connu de Genèse. Dieu dit « Faisons les êtres humains notre image selon notre ressemblance ». Et Dieu créa l'être humain son image. Image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Nous sommes de fait par essence, par conception première, des chefs-d'œuvre. N'ayons pas peur des mots. Des chefs-d'œuvre, car image de Dieu. Image de Dieu. Nous sommes image du Dieu vivant. Bon. Image quelque peu écornée, déformée, flétrie, abîmée par le péché, et son impact et ses conséquences diverses sur l'humanité déchue, sur tout être humain. Faut-il dire abîmé au point que Dieu ne soit plus reconnaissable à travers nous ou en nous ? Certains diront que oui, la formulation est bonne. D'autres la trouveront peut-être exagérée, peu importe. Quoi qu'il en soit, à notre conversion, à l'instant où nous passons des ténèbres à la lumière, de la perdition au salut, de la mort à la vie, spirituelle, éternelle, nous devenons automatiquement, immédiatement, les ambassadeurs de Dieu, les représentants de Dieu, avec un avant et un après, un changement fondamental, existentiel, un changement d'essence, changement radical a lieu à ce moment-là. Mais un changement qui est aussi couplé pour chacun et chacune des chrétiens, pour tout chrétien sans exception, à un changement progressif, à un processus. Car si nous sommes instantanément sauvés, ce n'est pas parce que nous serions devenus parfaits tout à coup, nous le savons. C'est parce que nous devenons pardonnés, graciés, au bénéfice du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et pour tout chrétien sans exception, s'enclenche alors un processus, un long et lent, plus ou moins long, plus ou moins lent, processus, un travail de restauration, de transformation, que dans notre jargon biblique, nous appelons sanctification. Sanctification progressive, croissance spirituelle, une restauration dont l'artisan, le maître d'œuvre est Dieu lui-même. Waouh, Dieu lui-même qui donne ainsi une attention particulière, toute son intention à chacun et chacune d'entre nous. Dieu est en train de me restaurer à son image parfaite. Dieu est en train de vous restaurer à son image parfaite. Nous tous, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dit une partie de ce beau verset de 2 Corinthiens 3,18. Si vous êtes chrétien, alors vous êtes dans ce beau processus. Ouais, mais non, moi, lui ou elle, en pointant du doigt les autres, que nous trouvons peut-être trop ou trop loin du compte. Si, si, tout chrétien. Nous tous, nous sommes transformés en l'image du Seigneur dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit, dit notre traduction. C'est là le plan de Dieu, c'est là l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit vivant et œuvrant en nous. Et c'est ce que je vous propose de considérer un peu ce matin, en belle continuité de ce qui a déjà été partagé. Et les prochains dimanches également, il y a tellement à en dire qu'on verra différents aspects les prochains dimanches. Mais d'abord, considérons le contexte de ce verset en lisant donc ce passage de 2 Corinthiens. Je mets la prochaine, Pedro. 2 Corinthiens, chapitre 3, je lis à partir du verset 7, dans la Bible Semeur, avec quelques modifications personnelles. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être éclairé, à être déclaré juste par Dieu ? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car ce qui est passager a été touché par la gloire. Si ce qui a été passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit était devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, le visage découvert, contemplant et reflétant la gloire du Seigneur, je me suis permis une traduction personnelle de ce verset en rajoutant un participe présent, alors que le grec n'en a qu'un, mais le grec contient ces deux sens de contempler et de refléter. Le même mot peut dire les deux. J'arrive pas à me décider entre lequel il faudrait choisir. Je n'ai pas envie d'appauvrir le mot et le texte en gardant qu'un. Contemplant et reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, par gloire pour la gloire, ou de gloire en gloire, ou dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, selon les traductions, de par le Seigneur l'Esprit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédures indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle, qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. et non notre propre capacité. Moïse, après avoir été dans la présence extraordinaire de Dieu, rayonnait de sa gloire. Il resplendissait d'une gloire céleste, même si celle-ci n'était probablement qu'un faible reflet de la gloire divine que ses yeux avaient pu contempler. Mais pour autant limitée et passagère qu'ait pu être cette gloire dont rayonnait Moïse, les autres Israélites ne pouvaient déjà pas la supporter. Et cela rendait nécessaire le port d'un voile physique par Moïse pour cacher son visage. Dans une continuité avec cela, jusqu'à l'époque de Paul, il y avait, écrit-il, aussi un voile spirituel, ne permettant pas aux judaïsants de pleinement saisir la gloire de Dieu révélée dans les Écritures. Jusqu'à aujourd'hui, continuité encore, ce voile empêche toujours toute personne incrédule de voir la gloire de Dieu. Tout esprit humain reste aveuglé s'il n'y a pas révélation de Dieu. Tout esprit humain reste aveuglé s'il n'y a pas révélation de Dieu. Si l'évangile de Jésus-Christ ne brille pas dans le cœur de la personne concernée, et si le Saint-Esprit n'ôte pas le voile pour permettre de comprendre que Jésus est le Christ, la gloire même de Dieu. Prions, prions que Dieu le fasse dans sa grâce, qu'il ôte ce voile dans de nombreux cœurs. Et à la conversion, le voile est enlevé et nous pouvons alors contempler, nous contemplons la gloire de Dieu qui rayonne de Christ. Nous avons ce privilège incomparable et incroyable de voir Dieu par Christ. Je ne sais pas si ça nous émerveille, vous dites, ouais, bon, pas mal, ouais. C'est le déclic. Nous avons alors l'esprit ouvert, le visage découvert pour reprendre les images de nos versets. Et alors, verset 18, cœur de notre passage pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, nous tous, le visage découvert, contemplant et reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, par gloire pour la gloire, de par le Seigneur l'Esprit. Transformés à son image. Ouais, bon, d'accord, mais 36 ans de restauration, je trouve ça quand même un peu long, non ? Certains d'entre vous, pour lesquels le chantier n'a commencé que depuis que peu d'années, pourraient se décourager. Surtout si on considère que chez d'autres chrétiens, le chantier de restauration dure depuis plus de 80 ans. C'est en effet la durée de vie chrétienne de certains de nos aînés. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage, dit une maxime d'une fable de La Fontaine. Assez juste pour le coup. Patience, persévérance, on l'a évoqué aussi dans le culte sur le fruit de l'esprit il y a 3 semaines. Sanctification. Ouais, mais bon, quand même, j'ai hâte que le chantier se termine, moi. Il y en a un peu marre des échafaudages, de la poussière, des outils que Dieu qui me façonne, me redresse et qui parfois me font un peu mal. C'est régulièrement éprouvant. Vous avez déjà eu votre appartement ou votre maison en chantier pour quelques petits ou gros travaux. Vous comprenez certainement ce que je veux dire. Ça fait déjà 20 ans que la maison est en travaux, alors... Est-ce que j'ai réellement hâte de refléter Christ parfaitement ? Ou est-ce plutôt parce que j'en ai marre des travaux ? Par envie des fois de rester comme je suis ? Est-ce réellement par hâte de refléter Christ parfaitement, ou plutôt que parce que marre des travaux, ou par envie de rester comme je suis ? C'est vrai, je suis déjà pas si mal, quoi, en fait, non ? Hein ? Qui a dit non ? J'approche la perfection, indéniablement, mais je l'approche de loin encore. Se contente de son niveau est un constat que font parfois certains profs sur les bulletins scolaires de leurs élèves, qui se contentent du minimum. Mémoire sélective, je ne sais plus si j'ai eu un jour ce genre de remarque sur mon bulletin, ce n'est pas impossible. Dieu écrirait-il cela aussi sur mon bulletin spirituel s'il en avait à émettre un ? Je vous laisserai réfléchir chacun là-dessus. En tout cas, le chemin de sanctification n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Nous le savons. Sanctification. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de laisser Dieu agir, et même de vouloir laisser Dieu agir. Car c'est bien là le cœur de la chose. Laisser Dieu agir et vouloir laisser Dieu agir. Par le Seigneur, l'Esprit, dit la fin du verset. Par le Saint-Esprit, Dieu en nous, Seigneur en nous. C'est effectivement lui qui crée la vie dans les âmes et qui ensuite, tout au long de la vie chrétienne, fait l'œuvre de restauration, l'œuvre transformatrice. Nous vivons de l'Esprit, a-t-on chanté tout à l'heure. Vrai ou non ? Bien heureusement, une large partie se fait sans même que nous en soyons conscients. Mais une large partie aussi, je crois, ne peut se faire qu'avec notre collaboration, qu'avec notre consentement, ne serait-ce que par notre demande de pardon quand nous péchons. Malheureusement, nous connaissons tous un certain nombre d'exemples. Ça peut ou a pu être notre cas personnel, peut-être, où un chrétien ou une chrétienne s'écarte sciemment du droit chemin de sanctification. Et il ou elle peut alors largement gâcher sa vie chrétienne en refusant cette sanctification, jusqu'à ce qu'il y ait repentance. Heureusement, ce n'est pas le cas normal. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir, disait le dernier chant. Pieuse mais creuse parole. Non, en général, malgré notre faiblesse et notre réelle et profonde volonté, je le crois, malgré de possibles manques de motivation de temps en temps. Nos limites, en bien des choses, sont de fait à reconnaître. Pas juste par fatalité, surtout pas par fatalité, plutôt par objectivité, sincérité, réalité. Une réalité qui n'est pas avilissante, non, pas entre les mains de Dieu. Ce trésor, dit un des versets, le dernier verset qu'on a lu, ce trésor, est-ce plutôt l'Évangile, est-ce le Saint-Esprit, est-ce la connaissance de la gloire du Christ ? Je ne sais pas pour sûr, tout cela peut être à la fois. Le mot est fort, en tout cas. Ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non pas notre propre capacité. Capacité, effectivement, nous vient de Dieu. Toute image de Dieu que nous sommes, et nous sommes aussi des vases d'argile. Un fait, tout simplement. N'en ayons pas honte. La focalisation n'est pas sur nous, elle est sur le trésor. Là est l'important, là est l'essentiel, ce trésor. Moïse ôtait son voile lorsqu'il paraissait devant Dieu, et que Dieu lui parlait comme un homme parle avec son ami. Sous l'alliance de grâce en Jésus-Christ, nous sommes tous des Moïse, ayant accès auprès du Père dans un même esprit. Nous contemplons à visage découvert, sans voile, la gloire du Seigneur, de Jésus-Christ glorifié. Et dans cette communion vivante, nous recevons et reflétons comme un miroir la lumière divine, la gloire du Seigneur. Comme je le disais, le mot grec a deux sens, de contempler et de refléter. J'arrive pas à choisir entre les deux traductions. Il me semble plus approprié, plus complet de garder les deux. Nous tous, le visage découvert, contemplant et reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation. Et voilà déjà 36 ans que ça dure. Vous mettrez la durée qui vous concerne. Et pas 36 ans à subir la restauration, mais 36 ans à bénéficier de la restauration. À bénéficier de la restauration. Bon, c'est vrai, vous me connaissez, moi je suis plutôt un optimiste. Un monsieur vert à moitié plein, ou vert à trois quarts plein même des fois. Et je ne suis pas le seul, Paul aussi, Dieu aussi. Plutôt que de retenir évangile, bonne nouvelle, Dieu aurait très bien pu mettre en avant mauvaise nouvelle. Perdition des incrédules. C'est pas comme ça que ça s'intitule. C'est pas ce qu'il a choisi. Dieu aurait pu mettre en avant jugement et condamnation des pécheurs non pardonnés. Ce n'est pas ce qu'il a choisi. Il met en avant grâce et pardon. De même, il ne dit pas « Nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, de très loin, parce que nous ne sommes pas vraiment dignes, et la reflétant, de façon bien nulle et encore déformante, nous sommes, péniblement, transformés à son image, au cours d'une laborieuse vie de croyant, encore lamentablement et fréquemment pécheur, bien que progressant, un peu de moindre médiocrité en moindre médiocrité, grâce aux inlassables efforts du Seigneur Saint-Esprit. » Il faut bien le dire, a vraiment du mérite de scoltiner des boulets comme nous. Est-ce que c'est ça que le passage dit ? Est-ce que c'est ça que le passage dit ? Non, pas du tout. Pas du tout. L'affirmation de Dieu est que nous sommes transformés à son image par gloire pour la gloire. Largement plus glorieux. Largement plus à la gloire de Dieu. Réjouissons-nous de ce beau programme. Réjouissons-nous des découvertes merveilleuses à faire jour après jour. Souhaitons les progrès qui nous sont offerts. Les prépositions ne sont pas évidentes à traduire du grec en français parce qu'elles sont souvent pleines de sens différents possibles. Alors, j'ai perdu la ligne. Alors, on peut très bien dire de gloire en gloire. Peut-être une des traductions qui nous est le plus familier. Et plein d'autres nuances aussi. Et sauf erreur de ma part, la première préposition a en général une notion de provenance. Elle peut vouloir dire « de »,« venant de », »,« à partir de », »,« par », »,« depuis », »,« à cause de » ou « à l'aide de ». Provenance fait de la gloire du Seigneur comme origine. Oui, vraisemblablement plutôt en lien avec la gloire du Seigneur comme origine. La deuxième préposition exprime en général plutôt une notion de destination, un mouvement proche vers, dans, jusqu'à, en vue de, en ce qui concerne. Et là, c'est la gloire du Seigneur comme finalité pour nous. Nous grandissons par la gloire du Seigneur, pour et dans la gloire du Seigneur. Grandiose, non ? Sujet de joie et de belle fierté, non ? En Christ, la gloire de Dieu est désormais apparue dans toute sa plénitude. Elle resplendit dans le cœur des croyants. Elle y réside de façon permanente par le Saint-Esprit. Elle les transforme à son image, de gloire en gloire. Oui, Seigneur, je veux vivre cela pour toi et par toi. Aide-moi. Viens au secours de ma faible volonté et de ma faible capacité. Enthousiasme-moi dans et par ton programme de vie pour moi. Oui, je veux voir ta gloire, je veux refléter ta gloire. Et je désire ardemment que d'autres découvrent, acceptent, obtiennent aussi ce trésor. Sanctification. Qui souhaite avancer sur ce chemin ? Je répète la question. Sanctification, qui souhaite avancer sur ce chemin. Ah, ici j'ai un doigt qui se lève. Deux. Évident, hein ? Transformer à l'image du Seigneur par gloire et pour la gloire. Peut-être que cela, que ce passage nous semble très théorique, de la haute pensée théologique, de l'éloquence, une grande envolée lyrique, un peu loin de notre concret quotidien. Alors, il y a évidemment beaucoup à dire sur cet aspect plus pratico-pratique, et c'est ça qui fera l'objet des prochains messages. Mais déjà, Stéphanie a abordé cette semaine dernière cela. Elle a partagé l'extrait du sermon de Jésus de chapitre 6 de l'Évangile de Luc, disant à titre d'exemple, et je reprends ou paraphrase quelques versets, « Soyez plein de compassion, tout comme votre Père, Dieu, est plein de compassion. » Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez. Bon, rassurez-vous, je prends que les plus faciles. Nous en discutions ensuite au groupe de Maison du Gaveau. Franchement, si nous arrivons à tant soit peu à mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande, Est-ce par exploit personnel, par super consécration et abnégation naturelle? Ou est-ce parce que le Saint-Esprit a déjà commencé à nous transformer à la ressemblance de Christ? Pour ce qui me concerne, je peux vous l'avouer, il n'y a pas photo, ce n'est pas par capacité personnelle du tout. C'est le fruit, le début du fruit de la restauration divine. Quelques pas, un peu fragile peut-être déjà, et déjà franchi sur le chemin de la sanctification par grâce, quelques petits exploits. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. D'autres versets de Luc 6. Nous faut-il vivre, plus exactement subir ces ordres comme des fardeaux que Dieu nous impose? Obligation, interdiction, exigence. Tel un carcan insupportable. Commandement humainement et désespérément impossible à porter et à accomplir. Est-ce que Jésus a balancé ses exigences à la figure de ses auditeurs juste pour rigoler? Est-ce que Dieu se dit « Ah ouais, tiens, je vais leur imposer des commandements impossibles juste pour rigoler » en les voyant échouer? Ou, alors que nous sommes que des vases d'argile, sans capacité propre, Dieu veut-il rendre l'impossible possible par sa grâce, par son œuvre puissante en nous, en nous donnant des capacités surhumaines qui reflètent sa gloire? Je ne crois pas être utopiste en pensant sincèrement que la volonté de Dieu est effectivement de me transformer pour me rendre capable, un peu, des fois, de plus en plus, de réagir, d'agir, de penser, de dire, de faire comme lui le ferait. Et je ne crois pas être trop fanfaron en disant qu'il m'arrive des fois d'effectivement réussir. Réussir à ne pas réagir comme j'aurais naturellement fait par le passé. Oui, il m'arrive d'agir à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je suis sûr que vous aussi. Vous aussi. Même si nous en sommes nous-mêmes souvent surpris. Quand je vois le témoignage de chrétiens, notamment de l'Église persécutée, arrivant à faire des exploits par rapport à leurs ennemis, non sans difficulté souvent, je ne me dis pas « Ah, ben ça, c'est des super chrétiens, des gens plus forts, plus courageux, plus doués, plus déterminés que moi !» Non. Et je me dis que nous avons un grand Dieu. Je me dis que nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui équipe, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui soutient, un Dieu qui sanctifie. Ce qu'ils sont, ce qu'ils font est à la gloire de Dieu, non pas par leur propre capacité, mais par la capacité de Dieu agissant en eux. Et cela peut être notre cas aussi. C'est notre cas aussi. Transformés à l'image du Seigneur par gloire pour la gloire. Sanctification. Qui souhaite avancer sur ce chemin? Un autre aspect de la sanctification, et on reviendra dessus les autres fois aussi, je lis juste deux versets en guise d'introduction. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et là l'auteur évoque là toute la liste qu'on appelle communément les héros de la foi, qu'il a listé au chapitre précédent. Et la liste n'est pas exhaustive, loin s'en faut. Nous donc aussi rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Rejetons le péché. Certainement un point majeur de ou sur notre chemin de sanctification et de restauration. Gros péché, petit péché. C'est bien qu'une telle distinction n'existe pas, mais je fais exprès de le dire ainsi parce que je suis sûr que ça nous fait tilter sur différentes choses. Péché conscient ou inconscient, péché une fois, péché récurrent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Des fois facile, nous y arrivons, des fois plus difficile et nous y arrivons ou nous échouons. Des fois, nous le voulons, des fois, nous le voulons moins. La solution, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Notre façon de dire ce que le passage de Corinthiens disait aussi, contemplant la gloire du Seigneur. Pour creuser plus ces aspects, c'est la semaine prochaine. En attendant, nous sommes déjà gloire de Dieu. Aussi piètre image, croyons-nous être à nos propres yeux, et souvent nous n'avons pas entièrement tort, nous sommes déjà gloire de Dieu. En ce sens que le fait que nous soyons des rachetés, des arrachés aux ténèbres et à la mort, nous sommes déjà gloire pour Dieu par l'œuvre glorieuse de Christ. Alors marchons cette semaine fiers, dans le bon sens du terme, pas orgueilleux, mais fiers de cette gloire déjà, fiers de cette sainteté. Oui, marchons de gloire en gloire par la grâce de notre Dieu. Oui, change nos cœurs, Seigneur. Et comme rajoutait Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi, en nous, en vous, une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen.